Salut tout le monde, c'est Xenia du Cercle des Traducteurs, la communauté et le podcast pour et par les traducteurs. Salut Samuel, Vania et Gabriel, bienvenue à tous les trois.
Merci.
Avant d'en arriver au vif du sujet, donc le GTGE, son fonctionnement, est-ce que vous pouvez me dire chacun quelques mots sur votre parcours dans la traduction ?
Donc, j'ai terminé la formation de traduction à l'ETI, à l'époque, donc l'Université de Genève, il y a presque 20 ans maintenant. Et depuis, j'ai travaillé, j'ai été employé dans une agence pendant quelques années. Je suis passé par la case chômage pendant 2 ans. Et puis après, je me suis mis à mon compte il y a une bonne dizaine d'années maintenant.
Ok. Et tes langues de travail, Samuel, c'est ?
C'est le français, l'anglais vers l'allemand.
Français, l'anglais vers l'allemand. Est-ce que tu as des domaines de prédilection, des choses que tu aimes particulièrement faire ?
J'aime bien tout ce qui est technique ferroviaire. J'aime aussi des textes plus rédactionnels qui virent un peu le journalisme. Ouais. Oui, c'est mes préférences.
Peut-être Vania peut se présenter.
Oui. Alors moi, c'est Vania. Moi, je suis indépendante depuis 2005. J'ai terminé aussi la même formation que Samuel, l'école de traduction d'ETI à Genève en 2003. Et puis entre 2003 et 2005, j'ai été employée. J'ai été employée au CFF, donc au service linguistique. Depuis 2005, je suis indépendante. J'ai rejoint le GTGE au début de sa création, très peu de temps après sa création en 2007.
Ouais.
Ça fait déjà quelques années que je fais partie du GTGE. Et concernant mes domaines de travail, donc j'ai traduit longtemps dans le domaine ferroviaire aussi, et puis dans la mobilité douce. Et je me tourne un peu plus vers la culture, l'éducation, la formation. Et j'ai une préférence et des compétences qui s'articulent pas mal autour de rédactionnel.
Ok, d'accord. Et puis pour terminer, Gabrielle.
Moi, j'ai plus jeune que mes partenaires. J'ai commencé par d'autres formations dans d'autres domaines, le droit en particulier, et puis un peu la gestion culturelle. Et puis un jour, j'ai dû gagner ma vie et à ce moment-là, j'ai pris la profession et j'ai commencé un peu en parallèle à la fois l'activité indépendante et les études. Parce que c'était possible. Donc, ça fait environ 6-11 ans que je suis indépendante et j'ai rejoint le groupe de GTGE en 2016, début 2016, bientôt 3 ans. Voilà. Et en termes de domaine d'activité, parce que je travaille plutôt dans le domaine de la santé et de la parasanté, pas mal aussi les droits humains.
D'accord. Donc, en fait, si je résume à vous trois, vous réunissez les compétences dans tout ce qui est lié à la technique ferroviaire, à la santé, enfin, au transport aussi, mobilité douce.
Le social aussi.
Le social aussi.
Le handicap, moi, j'ai oublié de le
mentionner.
Assez
vaste.
Assez
vaste. Ok. Et puis, Marielle et Vania, là, les langues de travail. C'est l'allemand, l'anglais, le français, c'est ça ?
C'est ça.
Et toi, les français ?
Oui, mais on pense plus sur le papier.
D'accord.
et au cas où, espagnol, mais dans les faits, plus tellement, c'est ça ?
Oui.
Ok, et maintenant, si on en vient au GTGE, déjà, qu'est-ce que c'est le GTGE ?
Le GTGE, c'est le groupe de traducteurs Genève, et comme son nom l'indique, c'est un groupe de traducteurs. C'est-à-dire qu'on est plusieurs traducteurs, trois et traductrices, qui avons formé un groupe pour mieux assumer le quotidien de traducteurs indépendants. Ça veut dire qu'on est, chacun est indépendant, a le statut d'indépendant, avec les clients en tant qu'indépendant, fait les factures, fait le démarchage, ce genre de choses. On a des aspects qu'on a collectivisés, comme le bureau qu'on partage. On a un site web qu'on partage, on a un numéro de téléphone, on a une adresse mail générique aussi, mm-hmm. où des gens peuvent nous contacter en tant que groupe. On a l'entrée téléphonique aussi, donc il y a tout l'aspect communication et promotion que nous faisons ensemble. Je te présenter comme une entité, comme une collectivité, mm-hmm. comme un collectif, mais tout en étant autonome chacun dans son travail.
Ouais. Et donc il y a des côtés qui restent, chacun reste indépendant de par son statut, et il y a des côtés qui sont mis en commun. Et dans le nom, le GTGE, comment ça vous est venu de choisir ces noms?
Alors à l'époque, je crois, on s'est inspiré de la Übersetzer Group à Zurich, qui existait déjà à l'époque. Et mm-hmm. puis le nom m'a plu, et puis on s'est dit que c'est exactement ce que nous on est. C'est un groupe, c'est pas une agence, c'est pas une entreprise, mais c'est un groupe plutôt informel. Donc c'est ça qu'on a trouvé le nom. Et puis Genève, ça nous ancre là où nous sommes. Et c'est assez intéressant parce que, par exemple, on a plusieurs nouveaux clients qui nous contactent simplement parce qu'ils tapent traducteur Genève dans leur moteur de recherche. Ouais.
Donc, ça veut dire que le site du GTGE vous apporte des clients?
Oui, occasionnellement. Effectivement, il y a des gens qui nous cherchent et il y a des gens qui cherchent des traducteurs qui tombent sur nous et effectivement, des clients qu'on ne connaissait pas par le passé et qui s'adressent à nous.
Et c'est des clients qui ont généralement des demandes ponctuelles, ou c'est des clients qui peuvent devenir des clients un peu plus de longue durée avec des mandats réguliers?
Alors, il y a différents cas de figure. J'ai un client que j'ai maintenant depuis 10 ans qui nous a trouvé comme ça, qui revient régulièrement avec des mandats pas énormes, mais quand même intéressants. Ouais. Et puis, il y a tout plein qui sont plutôt des particuliers ou qui demandent une traduction unique à faire. Mm-hmm. C'est souvent quand même des plus petits mandats.
Et quand ils n'aboutissent pas, vous savez pourquoi, ou c'est simplement vous n'avez plus de nouvelles?
Eh bien, parfois on a des nouvelles, parfois on a le retour que le prix est trop élevé, mm-hmm. et parfois pas.
Ok. Revenir au prix, justement, c'est quelque chose. Vous avez donc un tarif, une fourchette, je crois, de tarif qui est valable pour tout le groupe, pour tout le GTGE, c'est ça?
Oui.
Et comment vous vous êtes mis d'accord? Est-ce que ça fait l'objet de discussions, le fait qu'il y ait une fourchette de tarif pour tout le monde, ou comment ça s'est passé?
C'est beaucoup Samuel qui parle parce que c'est lui qui est à l'origine du GTGE. Moi, je l'ai rejoint plus tard. Et donc moi j'ai pas fait partie des discussions le tarif était déjà fixé quand je suis arrivée. Mm-hmm. J'imagine qu'il était en partie aussi co-déterminé par les prix usuels et qu'à l'époque il y avait encore des tarifs recommandés de la STI et puis une pratique. Oui. Mais arrivant justement assez tardivement, moi c'était plutôt un point positif que d'avoir justement ce tarif de référence et qui permet d'éviter d'avoir à tergiverser à chaque fois qu'on a un nouveau client, une nouvelle demande, et se dire voilà, j'affiche un tarif qui est justifié, il a été réfléchi et il a une raison d'être. Et parce que spontanément, quand on est jeune traducteur, potentiellement, on peut avoir des réticences à afficher un prix qui peut paraître élevé. Voilà, on n'est pas seul. C'est un peu le plus gros intérêt, justement, du traducteur, c'est de ne pas être seul.
Face au marché.
Face au marché.
Oui, le grand marché. Donc, c'est rassurant, en fait, d'avoir cette fourchette de tarifs. C'est pour ceux qui rejoignent le GTGE, ultérieurement, en fait, c'est ça.
Alors, c'est pour nous tous, en fait. C'est toujours à nouveau une discussion si ces tarifs ne sont pas gravés dans le marbre. C'est quelque chose dont nous rediscutons régulièrement. En interne, nous avons aussi quelques critères pour peut-être certains groupes d'avoir des réductions ou dans certaines conditions, mais que nous ne pouvions pas parce que nous ne voulons pas que ce soit vu comme un droit, mais c'est à nous, vraiment en tant que groupe, de définir au cas par cas. Et donc, nos tarifs, la fourchette, elle est de 3,20 à 4,20 pour 55 caractères de la ligne, de la longue source. Et en fait, c'est intéressant au début. Moi, je sortais d'une formation pour jeunes créateurs d'entreprise à l'époque. J'ai appris un peu comment on peut calculer un tarif pour arriver au salaire dont on a besoin pour vivre. Et puis, comme ça, on a fait tout ce travail de réfléchir aussi chacun combien il lui faut, et puis combien d'heures il y a dans une année, et puis donc ça fait qu'on doit gagner combien par heure, en compte des heures creuses, des heures fériées, des jours fériés, des maladies, des absences de maladies, etc. Et puis, ça me donnait ce tarif-là et ce processus de vraiment calculer et penser à ses propres besoins, ça m'a beaucoup aidé pour être affirmé avec ce tarif-là. Et puis, justement, pouvoir l'échanger avec les autres et aussi avoir des questions critiques les uns par rapport aux autres, c'est très précieux ce domaine. C'est vrai, on a rigolé tout à l'heure, mais ce marché un peu, voilà, qu'on n'arrive pas à saisir, insaisissable, qu'on est confronté, qu'on subit beaucoup, et en fait, on a besoin de des uns et des autres, et c'est une des grandes forces de notre groupe que nous pouvons vivre ensemble.
Et dans ce marché que vous avez l'impression de, qu'on a, enfin, je pense que vous n'êtes pas les seuls, qu'on a l'impression de subir parfois en tant que traducteur, à quel type de clients vous vous adressez? Donc on a vu que vous abordiez déjà des sujets assez généraux, mais actuellement, aujourd'hui, quel type de clients est-ce que vous avez?
En grande partie, les grandes administrations fédérales, pour ma part, des associations professionnelles, peu, voire très peu d'agences. C'est vraiment plutôt des clients directs obtenus par contact, soit suite à des stages, suite à des recommandations soit de personnes pour lesquels on a déjà travaillé, ou justement entre collègues, partenaires, traducteurs. Oui. On a aussi des entreprises proches de la Confédération.
Oui.
Et comme Gabriel dit, vraiment beaucoup bouche à l'oreille.
Oui.
Les meilleurs clients, en tout cas pour ma part, les clients les plus fidèles, avec le plus grand volume, avec les sujets aussi les plus intéressants qui me sont venus par bouche à l'oreille.
Et c'est du bouche à oreille, c'est d'un client à l'autre ou c'est des collègues qui vous ont recommandé ou les deux?
Des collègues souvent, des collègues d'études aussi, qui vont travailler quelque part et puis qui me recommandent à leur employeur comme traducteur externe.
Ouais. Est-ce que ça veut dire aussi que par rapport aux réflexions que vous avez eues au moment de créer le groupe ou bien tout au long de votre travail, donc, il y a vraiment une réflexion stratégique par rapport aux tarifs qui sont rediscutés régulièrement, si j'ai bien compris. Mais est-ce qu'il y a aussi eu une réflexion stratégique par rapport à quel client cibler, comment on va se faire la prospection, des choses comme ça? Ou finalement, le bouche à oreille a suffi?
Bien, il semblerait qu'au final, le bouche à oreille a suffi. On n'a pratiquement pas fait de démarchage. Moi, j'avais essayé un petit peu pendant un temps, mais très peu, à vrai dire. Et non, tous mes clients sont issus de mon réseau, de notre réseau. Donc, c'est le cas de la plupart.
La question se pose de temps en temps, et c'est notamment posée assez récemment, parce que suite à des changements dans les conditions générales de différents de nos gros clients, justement, c'est la question on a réfléchi à une stratégie de démarchage, mais qui je pense nous a été assez utile. mais qui on remarque finalement dans les faits, avant même qu'on ait besoin de mettre en œuvre cette stratégie, les contacts et les nouveaux clients arrivent.
Le concept marketing s'est noyé sous le flot des mandats.
Voilà, je crois que c'est le cas pour beaucoup de gens. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Alors, ce qui est peut-être on peut apparenter à de la stratégie, c'est que quand il y a des nouveaux clients ou aussi des gros clients réguliers, on essaye de leur rendre visite ensemble pour leur présenter le fonctionnement de notre groupe. Pour attirer leur attention sur les avantages que ce groupe peut leur apporter.
Oui. Eh ben, je vais embrayer sur les avantages. Quels sont les avantages pour le client aussi de faire appel à un groupe de traducteurs comme vous l'êtes ?
Et les avantages. Si vous vous souvenez bien, la raison première, le but premier du GPGE, c'était de proposer des combinaisons linguistiques différentes. Donc, un même client peut avoir des besoins dans différentes... dans différentes directions linguistiques, mais c'est le fait de pouvoir proposer, parce que nous ici, nous sommes vers le français et vers l'allemand, mais on a aussi dans le groupe des partenaires qui sont dans d'autres langues, l'anglais, l'espagnol, l'italien. Donc on est déjà une porte de contact vers des recommandations fiables pour les clients. Ensuite, le fait de travailler en groupe et en partie justement de travailler sur un peu les mêmes thématiques, un peu les mêmes intérêts, et donc de plus en plus sur les mêmes clients, ça permet aux clients d'avoir plus de disponibilité en face, un pour répondre aux congés qui soient de vacances, de maladies, heureusement pas trop souvent, mais bref, les absences, ça permet d'avoir une régularité, puis aussi de pouvoir accepter des mandats plus volumineux, parce que quand on est seul, c'est difficile pour tout le monde de répondre, parce que là, on peut se partager justement les travaux. Et il y a aussi la dimension de la qualité qui, globalement, est meilleure quand on peut échanger déjà rien que le fait de partager un bureau, d'avoir quand on a une question, pour en discuter assez librement et spontanément, mais aussi de lecture, notamment sur les gros mandats, notamment, mais aussi dès que spontanément on en ressent le besoin.
Et moi, je pensais au fait que vous offriez plusieurs combinaisons linguistiques. Est-ce que concrètement, c'est arrivé que le client dise « Ah, mais justement, ça tombe bien, j'avais aussi une traduction vers l'allemand alors qu'il était venu vers vous à l'origine pour une traduction vers le français ?» Donc, est-ce que ça concrètement donne lieu à d'autres mandats ?
Oui, tout à fait. Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Cherche le sens inverse de manière plus ou moins régulière par la suite, mais
c'est rassurant pour les clients de se dire qu'ils peuvent passer par la même entité, même si justement le traducteur lui-même il change, mais ça se passe très bien.
Oui, puis c'est aussi un avantage, si c'est le même, comme vous êtes en groupe, si quelqu'un qui constate un problème dans le texte, il peut le partager avec ses collègues, ce qui se fait pas forcément. Si un même texte est confié à différents indépendants qui ne se connaissent pas, en fait.
Tout à fait. Et puis l'intérêt aussi, qui laissé entendre, Samuel, le fait de travailler en groupe, alors c'est le cas pour tous les indépendants, mais c'est un plus par rapport aux agences, c'est le fait de savoir justement à quel traducteur on a affaire. Parce que autant l'accord d'entrée parfois est indéfini, autant une fois que quelqu'un accepte, le client sait qui va s'occuper de la traduction. Donc ça, c'est un plus en termes de responsabilité personnelle et donc un plus pour le traducteur, je veux dire pour le client.
Et on peut évoquer les avantages pour le traducteur, donc le fait de ne plus travailler seul, de pouvoir poser des questions à un collègue anglophone si par exemple on traduit un texte depuis l'anglais. Est-ce qu'il y a d'autres avantages encore ?
C'est-à-dire la qualité de travail juste au quotidien, le fait il y a beaucoup de traducteurs qui travaillent depuis chez eux, le fait d'avoir un lieu de travail où on se rend et on trouve des gens d'un point de vue social. Effectivement, ça permet de prendre du recul et d'avoir de prendre du recul. C'est vraiment une différenciation entre vie professionnelle et
vie. Ouais. Et c'est dans ce, on se plaigne beaucoup d'indépendants, enfin pas forcément les traducteurs, quand on est indépendant, c'est cette difficulté de dissocier la vie professionnelle et la vie privée si on travaille tout le temps depuis la maison, par exemple. Alors on a parlé beaucoup des avantages, mais pour vous aussi, quelles sont les éventuelles contraintes dans le fait de travailler en groupe comme ça?
Alors la première contrainte, c'est de devoir travailler en groupe, devoir s'entendre avec d'autres. Heureusement, ça marche très bien, mais c'est vrai, si quelqu'un n'a pas l'habitude de travailler au quotidien avec d'autres personnes, ça peut être une difficulté. Ça demande aussi un peu plus de temps que si on est tout seul. On ne prend pas les décisions tout seul, on doit discuter, on doit se mettre d'accord. Peut-être on doit reporter une décision parce qu'on voit que la question n'est pas encore mûre, la décision. Mmh. Donc, ça demande du temps. Et puis aussi, par rapport à quelqu'un qui travaillerait à la maison, avoir un bureau, avoir un numéro de téléphone, avoir un site web, c'est aussi des frais. Donc, il y a certains frais à couvrir. Ce n'est pas énorme, mais ça peut être vu comme une contrainte.
Et si par hasard, quand de nouveaux membres viennent rejoindre le GTGE, est-ce que vous faites une sorte de sélection, vous faites au feeling, parce que c'est pas toujours facile de savoir premièrement si on va s'entendre, parce que parfois on s'entend sur le plan personnel, mais sur le plan professionnel beaucoup moins, et par rapport à la qualité, enfin au professionnalisme de la personne en question.
Oui, alors effectivement, il y a ces deux volets qui sont les deux principaux volets. Eh bien, les deux principaux critères de sélection, évidemment, c'est donc la qualité qu'on va tester, soit tester directement en confiant un texte à traduire, soit en demandant un extrait de traduction. Ça, c'est le volet qualité. Et puis, dans le volet qualité, évidemment, il y a aussi la formation, l'expérience. Qui compte et l'aspect confiance qui est déterminante, la confiance et le contact sont évidemment déterminants parce que même si on est tous indépendants, on partage quand même pas mal de choses, on partage ne serait-ce qu'une image, et aussi l'aspect image qu'on n'a pas forcément évoqué jusqu'à présent, c'est pas un aspect forcément déterminant, mais quand même on est tous quelque part co-responsables de l'image, de l'impression qu'on renvoie vis-à-vis des clients. Et puis évidemment le contact, la communication régulière entre nous qui est aussi quelque chose de très important et qui doit être soigné et qui doit être on doit avoir aussi une compréhension commune quand même d'une certaine manière d'être ensemble et de communiquer.
Le GTG, on va dire le cœur, le noyau du GTGE en lui-même a évolué depuis sa création, mais il n'a jamais en fait dépassé le nombre de 3 en tout cas pour l'instant. Les autres personnes des partenaires qui sont plus ou moins proches, avec qui on a des contacts plus ou moins réguliers. Il y en a certains qui viennent occasionnellement travailler avec nous dans le bureau. Donc là, on les voit un peu plus régulièrement, on a des échanges un peu plus fréquents. Il y a des partenaires plus au sens large.
Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais oublié de vous demander. Donc le GTGE, c'est pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est un noyau de 3 personnes, c'est ça?
Oui, nous 3.
Ou 3. Et puis ensuite des partenaires occasionnels qui viennent de temps en temps dans vos locaux, c'est ça?
Oui, alors qui viennent dans nos locaux et puis aussi avec qui on collabore sur une base assez régulière. Okay. Donc c'est plus le partenaire éloigné du noyau. Si on veut moins, on collabore régulièrement. Mais on n'a pas des partenaires qui travaillent vers l'anglais. C'est une langue que nous ne représentons pas. Une langue cible. Et puis du coup, s'il y a des demandes vers l'anglais, c'est à eux que nous pouvons nous adresser.
En tout, combien de partenaires est-ce que vous avez qui gravitent comme ça autour du noyau?
Ce n'est pas un nombre très précis. C'est entre 10 et 20 personnes qui gravitent autour du GTG.
Oui, on a parlé de l'image. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui a fait l'objet d'une discussion, l'image de marque, vous voulez, l'identité visuelle, qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message, quel type de groupe vous voulez être?
Alors, au niveau du logo, donc de l'identité visuelle, il y avait quand même cette réflexion à laquelle personnellement j'ai pas participé parce que je n'étais juste pas encore dans le groupe. Samuel pourra en parler peut-être après. Sinon, on a quand même certaines valeurs qu'on n'a pas forcément formalisées, mais qu'on partage de manière vraiment claire, qui sont la confiance, la transparence aussi. Ça fait partie des valeurs qui nous tiennent à cœur, hein. Donc la transparence vis-à-vis du client et la transparence vis-à-vis des partenaires, par exemple, quand on sous-traite un mandat, on va essayer dans la très grande majorité des cas de faire ça de manière transparente, et aussi par rapport aux tarifs qu'on fixe avec nos partenaires, on va leur expliquer comment on définit le prix qu'on lui propose, le tarif qu'on lui propose. On veut vraiment, l'idée c'est pas de fonctionner comme une agence qui prendrait une commission fixe qui serait généralement assez élevée pour couvrir des frais fixes élevés et aussi dans un but lucratif. Nous, notre but, c'est certainement pas de faire de l'argent sur les autres, mais de fonctionner en réseau, de fonctionner vraiment en groupement et aussi en mettant en avant l'entraide entre professionnels, entre êtres humains, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup ces valeurs-là qui nous caractérisent tous les trois. Et qui sont généralement très appréciés aussi de nos partenaires et de nos clients aussi. Au niveau de la transparence, c'est-à-dire que si on partage un mandat avec un partenaire, on va vraiment essayer de présenter ce partenaire à notre client et d'être transparent à ce niveau-là.
Et par rapport aux tarifs, est-ce que ça veut dire que si vous confiez un mandat à un partenaire, vous prélevez quelque chose un pourcentage de tarif? Et est-ce que vous relisez aussi en interne la traduction, ou ça dépend des fois?
Oui, ça dépend des fois. C'est variable, mais en général, par rapport à la commission, on va prendre une toute petite commission qui serait liée à la gestion de projet, donc qui couvre vraiment les frais de gestion de projet, d'échange de mails les devis et ce qui peut prendre du temps. Donc, c'est des petits pourcentages. Et puis, on va conserver jusqu'à 20% pour la relecture. De 10 à 20% pour la relecture à peu près, ou plus selon les cas, selon les exigences du client, selon les responsabilités
Mais ça nous arrive aussi de simplement donner un mandat à quelqu'un d'autre. Et puis, c'est lui qui regarde après avec le client. Ça un peu est-ce qu'on veut, on aimerait, si c'est un nouveau client, est-ce qu'on aimerait le garder soi-même, ou est-ce qu'on ça va si le partenaire le reprend, par exemple?
Ouais. Comment ça se passe la gestion de projet entre vous? Est-ce que vous avez une adresse commune? Est-ce que chacun regarde un peu selon les jours? Enfin, ça se passe spontanément, ou bien vous avez un tournus?
Au cas par cas, c'est un peu qui peut, et puis la seule sécurité qu'on est assurée, c'est le fait de quand une personne répond, de répondre et de mettre les autres personnes en copie pour que tout le monde sache que le mail a reçu une réponse.
Vous utilisez des outils particuliers pour la gestion de projet, pour la comptabilité ou des choses comme ça?
Alors, on n'a rien en commun, en fait, sauf, on peut dire, les outils de traduction assistée, où un système, non deux, maintenant, qu'on partage quand on peut. Et puis, mais ça, c'est surtout le cas quand il s'agit de grands mandats qui sont partagés parmi plusieurs traductrices ou traducteurs. Sinon, justement, chacun est assez indépendant, en fait, et fait un peu à sa propre sauce.
Et par rapport aux clients, ce que je voulais demander aussi, si j'ai bien compris, il y a des clients que vous avez en commun, mais il y a aussi des clients que chacun a de son côté, en fait.
Alors, même les clients qu'on a en commun, c'est chacun qui les a pour lui ou pour elle, en fait. Donc, effectivement, il y a des clients voilà, qui ont toujours demandé une seule combinaison linguistique, du coup, qui reste avec le traducteur de départ. Et puis, il y a d'autres où ça change en cours de route, ou peut-être la traductrice, le traducteur n'avait pas la capacité de tout prendre, et puis ça peut qu'il est partagé avec d'autres. Aussi, au départ, quand il y a un nouveau client nous contacte, c'est un peu, voilà, ça dépend de la disponibilité de chacun sur le moment pour savoir qui va prendre cette nouvelle demande.
Non, c'était spontanément dans le groupe. Voilà, on était tous indépendants avant d'arriver dans le groupe. Donc, on avait déjà des clients, on avait déjà des contacts. Et donc, c'est ça un peu des contacts personnels que chacun a et qu'en général, il y a. Il y a effectivement, et un peu plus récemment, des démarches, des toutes petites démarches, enfin de démarchage, effectivement, des contacts qui ont été établis, ou notoirement, on est alors, essentiellement Vania et moi, parce qu'on a la même combinaison linguistique, on a les mêmes intérêts pour le sujet, pour le client. Et là, activement, on se présente comme un binôme et on dit, voilà, les demandes qui viendront, elles seront, et là aussi, Vania et moi avons une adresse spécifique pour la combinaison vert de français. C'est soit l'une, soit l'autre qui répondra. Et ça, c'est juste entre nous, après, quand les mandats arrivent, on se met d'accord qui s'en charge.
Et ma question, c'était aussi quand vous présentez, vous allez rendre visite au client, à un nouveau client, est-ce que vous y allez par trois, enfin, est-ce que vous y allez aussi, enfin peut-être que ça ne concerne qu'une seule langue, mais vous y allez quand même à trois, ou comment ça se passe?
Disons, quand ça ne concerne qu'une seule langue, bon, en principe, on y va seulement par combinaison linguistique, donc Samuel d'un côté, et puis Gabriel et moi de l'autre, si Gabriel et moi travaillons les deux pour ce client. Récemment, on a rendu visite à un nouveau client qui était partagé pour les deux combinaisons linguistiques, donc on y était à trois. Voilà, ça va vraiment varier selon les cas, en fonction de qui travaille pour qui. Mais voilà, on essaie de grouper effectivement les rencontres pour se présenter au maximum rencontrer maximum des clients.
Et même quand on y va individuellement, on se présente comme faisant partie d'un groupe.
C'est aussi communiqué, par exemple, dans nos mails, on a un pied une signature dans le mail qui met clairement qu'on fait partie du groupe. C'est l'adresse email qui est aussi à gtge.ch. Et puis c'est aussi sur les factures. Donc c'est tous les moments importants où on est en contact avec le client, on a des cartes de visite aussi. À tous ces moments, on affiche clairement l'appartenance au groupe.
Des choses que vous feriez différemment?
Alors, c'est une bonne question. Probablement une des choses qu'on a sous-estimées au départ, c'était assurer la qualité des partenaires et être vraiment sensible parce que c'était un projet relationnel qui mettait beaucoup en valeur la convivialité, aussi la bonne entente entre les gens. Et puis, quand on accepte un partenaire où on se rend compte après coup que la qualité n'est peut-être pas au top, C'est très difficile de revenir en arrière et de dire ah, désolé, on ne voit plus la collaboration ainsi par la suite. Parce que on a envie de créer des liens qui sont aussi des liens personnels qui sont forts. Alors ça, c'est un aspect où on, je pense on est plus sensibilisé aujourd'hui à regarder dès le départ aussi comment ça se passe au niveau de la qualité.
Et du point de vue de la structure?
En fait, c'est une structure qui est tellement souple. Jusqu'il y a une année, moi, je ne savais pas quelle était notre forme juridique. J'ai réalisé entre-temps qu'on est une société simple, en fait, mais sans contrat écrit. Parce qu'on n'a pas la personnalité juridique. C'est vraiment une structure très, très souple. Et du coup, en fait, non, moi, personnellement, je n'ai pas de regrets parce qu'on peut tout refaire à tout moment. Et du coup, on est, ouais, je dirais, on est paré pour l'avenir.
Des réflexions qui ont été menées justement pour se demander, en particulier dans la recherche potentiellement de nouveaux clients et de nouveaux clients communs, si le fait d'avoir une structure justement juridiquement un peu plus cadrée valait le coup. On en a discuté, donc cette discussion est faite, ça ne s'est pas encore révélé nécessaire.
Donc la structure actuelle avec sa souplesse vous convient parfaitement. Et puis vous aviez dès le début fixé dans un document des conditions générales.
Oui, c'est juste c'est un peu notre contrat de société, on pourrait dire. C'est les conditions générales de vente qui sont sur le site web. Et c'était le fait de les élaborer ensemble qui nous a aidé vraiment à définir le fonctionnement qu'on a envie d'avoir.
On a parlé déjà un peu d'avenir, mais comment vous voyez l'avenir du GTGE?
Alors, l'avenir du GTGE, on le voit de manière tout à fait radieuse. Non, mais je pense qu'on est assez confiants, les trois, d'autant plus que là, on est dans une phase plutôt de développement en fait, des partenariats pour continuer à renforcer justement le travail d'équipe. J'allais dire surtout pour Gabriel et moi, mais finalement Samuel aussi est dans cette démarche, est complètement dans cette démarche de développement des partenariats pour pouvoir prendre en charge des mandats volumineux, pour pouvoir être plus flexible, pour aussi être plus dans l'échange. Personnellement, j'ai travaillé quand même plusieurs années beaucoup en solo. Pour différents clients et avec peu finalement de collaboration avec quand même un binôme au niveau de la relecture, mais je trouve que l'aspect partenariat et le fait de coopérer sur des gros projets parfois à trois est très enrichissant, donc c'est un voilà, moi je pense que ce volet de développement du partenariat va continuer à prendre de l'importance.
Donc c'est plutôt positif.
Oui. À la fois pour renforcer la position et la situation des différents indépendants. Et vraiment comme une alliance. C'est pas vocation à remplacer ou à faire la place des agences, mais c'est quand même une alternative assez sérieuse pour les clients.
C'est un marché justement de plus en plus compétitif, qu'on ressent quand même de plus en plus compétitif. Justement, la collaboration entre traducteurs, et je pense que c'est une manière de faire qui donne une certaine structure. Et qui permet de ne pas devoir tout redéfinir à chaque nouveau cas, mais de pouvoir se reposer sur quelque chose d'existant et puis d'évoluer à l'intérieur de ce cadre que nous nous sommes donnés. Donc, ça me rend aussi confiant par rapport à l'avenir. On a traversé déjà plusieurs passes aussi plus difficiles par rapport aux clients, aux différents clients que nous avons eus ou que nous avons. Et puis, on a pu les traverser, entre autres, grâce à cet aspect collectif et au soutien mutuel qu'on a pu trouver dans le.
Et ça va vraiment pas de soi, le fait de travailler, en groupe. Avant de rejoindre le VTG, j'avais envie de travailler en groupe plusieurs fois. J'avais contacté plusieurs personnes, plusieurs groupes de personnes. Et ça n'a jamais pu faire. Ça va vraiment pas de soi. Mais à partir du moment où on rentre dans cette dynamique, on se dit, le partage, il est pour les bénéfices, à la fois pour les autres et pour soi-même. Et ce qu'on a probablement tendance et qu'on n'a pas vraiment appuyé dans cet entretien, c'est la position difficile quand on est dans un dépendant tout seul par rapport, parce qu'il y a le fait d'être plusieurs quand on est absent, c'est une chose, mais c'est toute la difficulté des périodes creuses, de dire un matin, ou des périodes de surplus, et qui sont toutes les deux des situations à risque pour une personne seule. Parce que quand il n'a pas assez, il n'a pas assez. Quand il a trop, il n'est pas forcément en mesure de répondre comme il faut. Et ça peut être aussi une cause de perte potentiellement de clients. Donc, c'est le fait de collectiviser, de mutualiser, là, ça peut vraiment être un plus au quotidien. Et dans un monde idéal, les périodes de surplus et de surplus s'équilibrent entre les partenaires, ce qui fait qu'il y a toujours plus ou moins. Quelque chose. Alors oui, il faut un peu plus partager. Il y a des fois où potentiellement on pourrait en faire soi-même un peu plus, mais on est content aussi de partager à la fois des contacts et du travail avec des personnes avec qui on aime travailler et avec qui on apprécie.
Ouais, c'est-à-dire que là, d'aspect client et tout ça, le fait de travailler en groupe, en réseau comme ça, c'est aussi très rassurant, c'est ça. Puis c'est une solution. Ça peut atténuer le stress qu'on peut ressentir en tant qu'indépendant. En fait, c'est ça.
Le stress ressenti, mais le stress réel aussi. Enfin, les contraintes pratiques du fait de répondre à des quand on est seul, le fait d'être, ça permet. C'est pas juste le ressenti du stress au personnel, mais c'est la réalité d'avoir trop peu ou trop.
Bien, j'ai encore une toute dernière question. C'est de connaître votre mot préféré dans votre langue cible et dans l'une de vos langues sources.
Alors, mon mot préféré ou un de mes mots préférés en allemand, c'est Hen. Allemand, ça veut dire la poule, mais ça veut aussi dire comme vachement en français. C'est pour intensiver un mot.
Ok. Et dans en français, par exemple?
Je me souviens plus ce que j'ai dit. Tu peux me le rappeler.
Je crois que ça avait dit quelque chose que disent tes enfants souvent.
Ah oui, c'est ça, oui. Gros bêta. C'est l'insulte suprême de
voilà.
Mes enfants. Hein. Ouais.
Ok. Merci. Et Vania?
Bah, écoute, je ne sais pas d'où m'est venu le mot mistigre, mais celui-là qui m'est venu en tête, mistigri, parce qu'il y a un côté un peu mystérieux, mystique, et puis j'adore les chats. Donc, et tous ces i, je les trouvais rigolos et inspirants. Et ouais. Puis, dans mes langues sources, eh bien, j'ai tout de suite pensé au Rasswürfli, hein, moi n'étant pas du tout suisse allemande d'aucune origine que ce soit, j'apprécie la mélodie du suisse allemand, qui me fait beaucoup rire. Non, en espagnol, j'ai la pêche qui se dit melocotón, que je trouve très joli. Et en anglais, empowerment. Voilà, pour son côté intraduisible.
Oui. Oui, c'est j'allais dire, oui. Merci. Et Gabrielle?
Je me suis posé la question quand j'ai reçu ton questionnaire et je me la repose encore un temps et décidément, je ne sais pas. J'ai pas de mots, de manière générale, j'ai pas de préférence. Je ne saurais pas quoi répondre. Non, j'aime pas tout. Mais l'inspiration,
respiration. Et puis, non, il y a un mot que j'aime bien qui est gemeinsam.
Ça résume aussi bien la vision du GTGE. Gemeinsam ist besser als einsam.
Très bien. Bah, je vous remercie tous les trois d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et bah, je vous souhaite longue vie au GTGE alors.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. Sache qu'il y a du nouveau de mon côté, c'est que j'ai changé la formule du cercle des traducteurs qui est devenue la traduction avec Xenia, avec un tout nouveau site web qui s'appelle d'ailleurs avecxenia.com. Tu trouveras mon offre de non-formation, tu verras ce que c'est dans le site, mon offre de coaching et aussi le formulaire pour t'abonner à la newsletter que je publie à peu près, disons, 2 fois par mois, si ça te dit. Alors à bientôt.